Bonsoir et bienvenue à tous dans cette tribune de la presse. Au sommaire de ce nouveau numéro, le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo a été renouvelé pour une année. Le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a fait savoir à travers sa résolution 2211 adoptée jeudi à New York. Et puis il y a eu des concertations à Kingakaki dans la famille politique du chef de l'État. Une rencontre convoquée par le président Joseph Kabila est placée sous la direction d'Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité, pour répondre à la lettre du groupe 7, entendez, le groupe des 7 partis politiques qui sollicitaient toujours un débat interne au sein de la majorité présidentielle. Pour débattre autour de ces deux thèmes, nous avons Robert Ndaye Tshisense, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC, chaîne nationale. Bonsoir Robert.
Bonsoir Béry.
Et vous intervenez à partir du téléphone, les auditeurs l'ont bien compris. Innocent Kabukala, journaliste et coordonnateur à Global Télévision, une télévision qui est née ici à Kinshasa. Bonsoir Innocent.
Bonsoir Béry.
Gaston Mouchid, directeur général de la radio Manika, une radio qui est née à Kolwezi Katanga, et il nous fait plaisir de venir ici au studio de Radio Kapi à Kinshasa. Bonsoir Gaston.
Bonsoir Béry.
Merci. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine, et c'est avec vous qu'elle écoutez. Bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le renouvellement du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité pour une année. Le phare pour dévoiler l'essentiel de cette décision de l'ONU, je cite, un nouveau mandat d'un an et au moins 2000 casques bleus à réduire dans son effectif total des pas moins de 20 000 militaires. La prospérité rapporte déjà à ce stade les premières réactions de la classe politique sur cette décision, notamment la réaction du député de l'opposition, Sami Badibanga, qui se réjouit de cette décision. Ne voulant pas être en marge de ce sujet, le potentiel relaie de son côté la position de la Fédération internationale de Ligue de droits de l'homme, je cite, repenser la stratégie de la mission de l'ONU en RDC en amont d'échéances électorales cruciales. Quittons New York pour nous rendre à Kingakati où Joseph Kabila, autorité de la majorité présidentielle, a réuni dimanche 22 mars dans sa ferme les différents partis de cette famille politique. Encore et toujours Kingakati, c'est parfois à partir de la ferme présidentielle que se dessine l'avenir politique du chef de l'État, renseigne Forum des As. C'est le cas de la réunion ayant mis autour d'une table les deux camps de la majorité présidentielle, à savoir le groupe de 7 G7 des partis politiques et les autres. Au terme d'un débat houleux, les violences se sont accordées, écrit le journal. Pour aider les différents acteurs politiques à s'exprimer librement, Joseph Kabila s'est limité à introduire la rencontre avant de se retirer. L'observateur renchérit que depuis les événements du 19, 20 et 21 janvier dernier, consécutifs à la tentative de l'Assemblée nationale et du Sénat de modifier la loi électorale, un climat glacial a envahi la majorité présidentielle. Entre-temps, 7 des partis de la famille politique ont envoyé le 5 mars 2015 une lettre au président dont Kabila faisant état d'un certain nombre d'inquiétudes et d'un malaise au sein de sa coalition. Une lettre qui, au lieu de décrisper le climat, a plutôt renforcé la crispation. C'est entre autres pour répondre à la demande des signataires de cette lettre que Joseph Kabila a réuni dimanche 22 mars les principaux partis de sa famille politique, celle de se rencontrer, de se parler et d'ouvrir un débat sur les questions du moment. Le phare souligne que le débat interne a été effectivement houleux, selon des témoins qui sont confiés au journal. Faucon et Modéré se sont dit des vérités en face. Les Faucons ont traité les Modérés des traîtres à la cause du chef, tandis que ceux-ci faisaient remarquer au premier que leur radicalisme était en train de conduire l'ensemble du bateau à sa perte.
Merci Kélin Kouté. Et parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité de la semaine, nous avons la problématique de la desserte en eau et électricité en RDC. Le DG de la Régie des eaux était interpellé à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des élus du peuple. Et le DG de la SNEL a noté mardi sur les antennes de Radio Kapi les difficultés liées à la fourniture du courant à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Alors, Robert Ndaye Tshisense, je rappelle que vous êtes journaliste à la RTNC. Quelle lecture vous faites de la desserte en eau et électricité dans notre pays ?
Bien, vous savez, beaucoup d'efforts ont été faits pour que le Congolais, la population congolaise en général, puisse accéder à l'eau potable, à l'électricité. Mais je constate malheureusement, je le dis sans mâcher le mot, que le responsable de la Régie des eaux et de la SNEL ont presque failli à leur mission. parce que si l'eau doit devenir aujourd'hui dans notre pays une denrée rare, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore faire. Le matin, lorsqu'on se réveille, s'il faut aller au travail, pour qu'un journaliste puisse faire son travail, pour qu'un politicien, un acteur de théâtre, un musicien, tout c'est l'eau. Mais si l'eau devient une denrée rare dans notre pays, il y a de quoi se poser des questions. Moi, je pense que les responsables de la Régie des eaux et de la SNEL doivent prendre ces dossiers à cœur.
Innocent Kaboukala, certains experts en la matière affirment que c'est l'État congolais qui tue ces deux entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces experts?
Je partage cet avis, pour autant que, à partir du moment que ces deux entreprises sont sous tutelle de l'État, je crois que l'État devait faire beaucoup plus d'efforts pour arriver à doter ces entreprises de tous les moyens. Regardez les allégations de l'ADG, de la Régie des eaux. Qu'est-ce qu'il dit justifie son incapacité? Il ne dit même pas que c'est son incapacité. Il estime que cette situation-là est due au fait que la SNEL connaît des problèmes et donc la Régie des eaux dépend de la SNEL.
C'est la majorité ping-pong, parce que c'est la SNEL qui accuse la Régie des eaux.
On nous ramène carrément à l'histoire du jardin d'Eden. Pourquoi vous avez mangé ce fruit? Non, c'est la femme que vous avez mis à côté de moi. Non, ça n'a pas de sens.
Merci. Alors Gaston Mouchid, quelle peut être la solution pour améliorer la desserte en eau et électricité dans notre pays?
La solution, c'est d'avoir un plan de développement et de pouvoir le mettre en pratique. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, que l'ADG de la Régie des eaux soit interpellée. C'est pour quel résultat? Tous ceux qui ont été interpellés, et au soir, pour les députés, c'est une monnaie d'échange. Ils se retrouvent les soirs, on va leur donner des sous et ça s'arrête là. Quelle est la solution pour la population? Aujourd'hui, la population a augmenté de plusieurs millions. Mais la desserte n'a pas suivi, que ce soit en électricité ou en eau potable. Mmh. Encore faudra-t-il que cette eau soit potable. Parce que ceux qui ont un peu d'argent achètent l'eau dans les magasins. Mmh. Mais la population qui représente les gros de la moyenne prend l'eau sale. Et puis l'électricité, et c'est devenu rare.
Les gens, même chez vous à Colosie?
Ah mais attendez, nous avons Zilo, nous avons Seke, centrale de Seke. Dernièrement, on nous a dit que TFM a mis des sous là-dedans pour qu'on améliore la desserte en électricité. Mais résultat des courses...
C'est seulement la TFM.
Oui, c'est courant là-bas, la TFM. On n'a même pas de délestage à Colosie. Nous sommes en train de redresser parce que la population, les villes, les cités naissent, se créent, mais la plomberie et puis l'installation ne suivent pas.
En une minute, quelle est l'actualité qui domine chez vous à Colosie?
L'actualité est dominée par le vent de la décentralisation qui s'annonce. Quand est-ce que
la ville
va être le chef-lieu, quand est-ce que ça va être mis en place, quels sont les tenants et les aboutissants, mais également l'arrestation d'un élu de Colosie, Vano Kiboko, que vous connaissez, il a été arrêté. C'est un élu à Colosie de 2006 qui n'a jamais été jugé, donc il y a un certain nombre de gens à Colosie qui se demandent est-ce qu'un procès peut avoir lieu et que monsieur soit relâché.
Ok. Merci beaucoup. Alors, l'autre actualité de la semaine, c'est la loi sur l'information qu'on appellera la loi Nyarugabo. Cette proposition de loi a été jugée recevable au Sénat et envoyée à la commission PAJ pour toilettage. Innocent Kaboukala, vous avez suivi sûrement les débats au Sénat. Que pensez-vous de cette loi, brièvement?
D'abord, il faut saluer le fait qu'il y ait une loi qui réglemente pratiquement les secteurs. Parce que, vous savez, l'information est très importante. Quand on a l'information, on a la sécurité. C'est important que toute personne, et surtout que nous sommes en démocratie, on a besoin d'accéder à l'information, il ne faut jamais rencontrer des barrières. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de barrière, que cette information est connue de tous, on a la possibilité d'être sécurisé. Pourquoi? Parce que ici, l'information, dans la mesure où elle est bonne, elle est réelle, et ça permet à chacun d'avoir une idée claire sur ce qui est dit, et donc on va couper court aux rumeurs, à des spéculations, et donc on sera en sécurité. Voilà.
Très bien. Alors Gaston Mouchid, est-ce que vous pensez que c'est aussi le travail du journaliste qui est quelque part sécurisé?
Sécurisé
ou protégé?
Je suis encore pessimiste, parce que la Constitution elle-même garantit la liberté d'expression. Je représente les journalistes en danger dans les secteurs et je me rends compte que même si nous avons la loi qui réglemente la presse en RDC, qui sécurise les journalistes, c'est pas du tout le cas. Donc nous avons des problèmes déjà à partir de ça dans ce pays d'avoir des bonnes lois mais qui ne sont pas appliquées. Je vais vous donner un exemple parce que je vis
à Colosie. Donc pour vous c'est l'application des...
Il y a des problèmes parce qu'aujourd'hui nous sommes à Colosie. Les entreprises minières, KCC, TFM, Moumi, Sicomine, même les Indiens qui vendent des trucs, on ne laisse pas un journaliste venir investiguer pour quoi que ce soit. C'est accès interdit. Même lorsqu'on dit que la loi autorise aux journalistes d'accéder à toutes les sources d'information. Et donc, dernièrement, j'ai dû sortir de cachot un journaliste de Colosie qui a été arrêté. Tout simplement, un Indien, une centimètre d'un Indien est décédé. Il est allé tourner cet élément et il s'est fait mettre au parquet. Donc, il a fallu 2 jours de négociation pour qu'on puisse les relâcher. Et pourtant, il y a des lois qui sécurisent les journalistes déjà à partir de ce moment.
Ouais.
Mais si ces lois-là ne sont pas appliquées, on va voter une nouvelle loi sur l'accès à l'information. Mais si on continue à nous dire que tout est stratégique, que vous ne pouvez pas accéder dans les installations des entreprises privées, vous ne pouvez pas aller chercher vos informations, même...
Il n'y aura pas, pas appliqué.
Même les responsables étatiques, un chef de service de l'économie, un chef de service de l'environnement, il vous dit non, moi je ne parlerai pas parce qu'il faut l'autorisation de mon ministre à Kinshasa. Nous sommes à Colosie, vous ne vous répondez pas parce qu'il faut que Kinshasa vous réponde. Donc c'est une façon de restreindre l'accès à l'information.
Ok, merci. Alors Robert Ndaye, en une minute, une analyse par rapport à tout ce que Innocent et Gaston viennent de dire.
Je suis tout à fait d'accord avec mes co-débatteurs de tout à l'heure. Et moi je pense que, bien sûr, le sénateur Moïse Nyarugabo a bien fait de proposer cette loi au Parlement, mais qu'est-ce qu'on fait des autres lois qui ont été déjà élaborés dans ce pays? Les journalistes aujourd'hui, un de mes co-débatteurs l'a dit tout à l'heure, il est plus facile à un journaliste étranger qui quitte n'importe quel pays, n'importe quelle chaîne étrangère, de venir avec beaucoup de facilité investiguer dans notre pays, alors que nous-mêmes, nos propres journalistes congolais, africains, nous n'avons pas parfois accès à certaines informations. J'ai eu le temps à un moment donné de découvrir les pourparlers de Kampala où vous avez vu que il y avait d'autres journalistes qui venaient, ils ont l'information tout de suite et nous. Moi je pense que c'est une chose est de faire une loi, mais une autre chose c'est de renforcer cette loi pour que le journaliste congolais puisse être libre.
Merci beaucoup. Alors tout de suite nous passons à notre premier thème de la soirée qui concerne le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Et ce mandat de la mission a été renouvelé pour un an, je vous l'ai dit en annonce. Ceci ressort de la résolution 2211 votée jeudi par le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Cette résolution onusienne fixe 3 priorités pour la MONUSCO. Il s'agit de la protection des civils, la stabilisation du Congo et l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Emmanuel Mbanda Lukenga nous fait le condensé de cette résolution.
D'abord, la protection des civils. Le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise la MONUSCO à prendre toutes les mesures nécessaires pour, entre autres, assurer la protection des civils sous la menace physique dans ses zones opérationnelles. Dans le cadre de la stabilisation de la RDC, le Conseil de sécurité autorise la MONUSCO à contribuer à la lutte contre les groupes armés dans le cadre d'une action groupée et polyvalente en complément aux mesures de stabilisation à l'échelle locale. La résolution 2211 autorise aussi la mission des Nations Unies au Congo, entre autres à offrir ses bons offices, ses conseils et appuis au gouvernement congolais en vue du désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants congolais non soupçonnés de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et ceci en coopération étroite avec d'autres partenaires internationaux. Pour ce qui est des combattants étrangers, la MONUSCO est autorisée à contribuer à leur désarmement, démobilisation, rapatriement ou réinsertion, ceci au cas où ils ne sont pas soupçonnés de génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En rapport avec l'appui de la réforme nationale, la résolution 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorise la MONUSCO à contribuer à un certain nombre d'activités pour aider les autorités congolaises à mener à bien les réformes prévues par l'accord cadre et à stabiliser l'Est de la RDC. En ce qui concerne les élections, la résolution autorise la MONUSCO à fournir un soutien logistique pour faciliter la tenue des élections. Ceci sous réserve d'un processus électoral libre, juste, ouvert, crédible et transparent, des conditions autres du ressort du gouvernement congolais.
Merci Emmanuel Mbanda. Et en réaction, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et la société civile congolaise se disent satisfaites du renouvellement de ce mandat. Avec l'adoption à l'unanimité de la résolution 2211, la société civile estime que le Conseil de sécurité a tenu compte des données de terrain. Alors Robert Ndaye, vous êtes journaliste à la RTNC, je le rappelle à nos auditeurs, comment vous analysez cette résolution?
Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité est toujours là, présent à tout moment. Je reprends cette résolution 2211. Le gouvernement congolais demande le retrait de 6 000 hommes. La MONUSCO exige ou s'impose, ou la communauté internationale s'impose. Écoutez, ça fait quand même 15 ans que la MONUSCO est dans ce pays. Si je vais regarder, me rappeler des mémoires des journalistes, ce texte de 16 pages qui a essayé de passer en revue les tâches assignées à la MONUSCO, quelque part, on parle de d'assurer la protection des civils, de neutraliser les groupes armés par l'intermédiaire de la brigade d'intervention, surveiller la mise en œuvre de l'embargo sur les armes, et de toutes ces activités, la MONUSCO est invitée à tenir pleinement compte des questions transversales qui constituent la problématique homme-femme et la protection. Je ne suis pas contre la décision du Conseil de sécurité, mais ça fait quand même 15 ans. Ce qu'on n'a pas fait dans 15 ans, pensez-vous qu'on va le faire dans une année? Est-ce qu'il vous garantit que l'année prochaine, à la même date, il n'y aura pas encore de prétexte pouvant justifier tel ou tel autre cas pour prolonger encore les mandats de la MONUSCO?
Et donc, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec les organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile qui sont satisfaits de ce renouvellement?
Mais les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile, à un moment donné, il faut. Le Congo n'est pas un pays sous
tutelle. Mais
la communauté internationale dérive.
Toutes ces personnes disent qu'ils ont pris. La communauté internationale a tenu compte des données de terrain.
Mais ces données de terrain disent quoi? Qu'il y a instabilité? Qu'il y a guerre? Qu'il y a péril à la demeure? Qu'il y a. À un moment donné, en tant que journaliste, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on pense que nous pouvons faire des choses seules. Ça fait 15 ans. Je rentre dans l'esprit des organisateurs de la société civile. Ça fait 15 ans. Je prends le cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Tout ce qui arrive ici, c'est pas tout simplement parce que lorsqu'il fallait lancer les opérations des SDLR, la MONUSCO a estimé que Kinshasa devrait s'agenouiller devant cette MONUSCO pour lancer les opérations. Mais je rappelle, sur vos antennes, il y a quelque temps, lorsqu'il fallait lancer les opérations contre les ADF Nalu, la MONUSCO n'avait pas demandé l'autorisation de Kinshasa. Mais quand il s'agit d'attaquer le FDLR, sous-entendu derrière, on veut protéger les intérêts du Rwanda. C'est pour cela que la MONUSCO, à un moment donné, se rétracte et commence à sortir de prétextes. Il faut des généraux, il faut les traduire, il faut...
Oui, Robert,
S'il vous plaît, je vais terminer. Je vais terminer par
rapidement,
là.
Rapidement.
Donc, je pense que la communauté internationale doit aussi tenir compte des données internes. Ces données internes, j'ai vu certains acteurs politiques qui parlent des élections, et pourquoi est-ce qu'il faudra qu'à un moment donné qu'on ait peur de l'inconnu?
Mais, ok, je vous redonne la parole tout à l'heure. Alors, Innocent Kaboukala, vous êtes journaliste et coordonnateur à Global Télévision. Comment vous analysez, vous aussi, cette résolution par rapport à ce que vient de dire Robert?
Bon, moi personnellement, d'abord, je salue le fait que, parce que nous militions pour que la MONUSCO puisse rester dans notre pays. Non pas parce que je voudrais qu'on garde notre pays sous tutelle. Non, il n'y en a pas question. Et je ne veux pas m'engager dans une situation comme j'en ai entendu certaines personnes dire que le fait que la MONUSCO continue de rester ici, ça signifie que la MONUSCO a gagné au détriment du gouvernement qui aurait perdu et comme s'il y avait une guerre ici. Moi, je ne pense pas que ce soit... il faut aborder la question de cette manière-là. Mais il est plutôt important de souligner une chose, que d'abord, la présence de la MONUSCO ici n'est pas un fait du hasard. Elle a été invitée par le gouvernement de Kinshasa à l'époque, on sait, parce que nous avions affiché une certaine incapacité à pouvoir sécuriser nos populations. Et c'est pour cela que la MONUSCO était venue ici. Ce n'est pas un fait du hasard. Il faut noter aussi que nous sommes membres d'une communauté internationale.
Oui, ok.
Nous sommes membres d'une communauté internationale. Et donc, quoique nous avons notre souveraineté, à partir du moment que nous avons accepté de faire partie de cette organisation, nous avons donné la possibilité à ceux de nos membres d'avoir un regard dans notre pays. Mais cela ne met pas en cause notamment notre souveraineté. Donc, nous continuons à demeurer souverains, mais les autres peuvent regarder ce qui se passe dans notre pays. La mission qu'on vient d'attribuer à la à la Monusco actuellement. Mm-hmm. Je pense que c'est tout ce qu'on a toujours demandé. C'est vrai, Robert dit qu'en 15 ans, qu'est-ce que la Monusco, c'est que la Monusco n'aura pas fait, est-ce qu'elle peut le faire en une année? Non, c'est pas ça. Le problème, il ne faut pas le poser en ces termes-là. Mais le vrai problème, c'est que, est-ce qu'en 15 ans, nous avons résolu l'essentiel de la question? Et qu'est-ce que j'entends par essentiel de la question? Mm-hmm. Pourquoi nous sommes dans l'insécurité? Pour la plupart de cas, vous noterez que le grand problème, c'est celui de la crise politique. Et cette crise est souvent relative à des élections qui sont contestées et pour lesquelles nous n'avons toujours pas des solutions en tant que gouvernement. Et donc, il ne revient pas à la Monusco. Elle n'est venue qu'en appui. C'est à nous-mêmes de pouvoir nous déterminer. Et si nous voulons donner un vrai délai à la Monusco, nous devons nous montrer sérieux en résolvant l'ensemble des crises que nous avons ici au Congo. Et la Monusco ne nous en empêche pas,
okay,
à ce que je sache. Donc, mais évitons de donner lieu à des contestations aux élections. Mais quand vous donnez l'impression que vous voulez demeurer et rester au pouvoir, pour le pouvoir, mais les autres Congolais, ils s'estiment frustrés et donc ils viennent en contestation et par conséquent, ceux qui sont mal intentionnés, parce qu'il est aussi vrai qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, mais en profitent justement pour pouvoir nous mettre dans
une insécurité. Mais laissez-moi poser quand même cette question qu'a soulevée en même temps Robert. La protection des civils fait partie des priorités de la Monusco et c'est une priorité qui revient presque chaque année. Comment vous jugez le travail de la Monusco par rapport à la protection des civils?
C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut redire là-dedans. Mais je dis encore une fois, il appartient au gouvernement congolais de pouvoir faire le go du travail. C'est vrai que la Monusco est venue là où, dans notre incapacité d'arriver, par exemple, il y a des coins reculés. Parce qu'il nous manque la logistique. Par exemple, pour arriver à sécuriser des gens qui se retrouvent à des milliers de milliers de kilomètres par rapport à un pays qu'on qualifie de sous-continent. La Monusco intervient à ce niveau-là. On décrit des petites choses. Mais si vous y regardez avec une analyse froide, vous verrez que pour la plupart des cas, c'est un problème politique. La crise que nous avons au niveau politique affecte nécessairement tout ça. Parce que, vous voyez, toutes ces rébellions, pour la plupart des cas, quand elles débutent, qu'est-ce qu'on dit? Non, nous sommes d'accord parce que nous pensons que c'est telle personne qui devrait avoir gagné les élections. C'est pour cela que nous estimons qu'il faut qu'on revienne à la... Alors, ils inventent tous ces termes-là à la suite du manque, peut-être, de souplesse de nos autorités pour arriver à résoudre certaines questions. Et on leur donne cette liberté-là.
Ok, je donne la parole à Gaston pour analyser. Vous avez entendu Innocent et vous avez entendu Robert. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce stade des faits?
Je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur Innocent. Il dit que la Monusco et ex-MONUC est venue parce qu'on n'était pas sur invitation du gouvernement congolais qui était incapable de sécuriser sa population civile. Ça, c'est un gros mensonge. Parce qu'aujourd'hui, tout s'accorde à dire que les conflits de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est les plus meurtriers que l'humanité ait connus après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez les statistiques. On a tué plus de 6 millions entre 1998 et maintenant. Les rapports de l'année passée de l'ACR démontrent qu'il y a eu 2,7 millions de déplacés. Et on ne compte pas ici les pillages des ressources minières, des ressources du sol, dont la République est victime.
Vous allez réagir, Innocent.
Et donc, Innocent, il ne faudrait pas. Quand c'est Kabila qui fait deux mandats, on lui dit de sortir parce qu'il ne peut plus se pérenniser au pouvoir. Mais quand la Monusco, pendant 15 ans, n'a rien fait, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas penser que la Monusco a fait un bilan positif à partir du moment où on a tué 6 millions. Ils sont 20 000 hommes. Et aujourd'hui, vous savez le budget de la Monusco? Ces militaires-là touchent combien? Leurs soldes? Et nos militaires à nous, ils touchent combien? S'ils ont besoin d'aider la RDC, pourquoi ne pas prendre cet argent et d'appuyer la FRDC? Ils sont bien habillés, ils mangent bien et ils sont en RDC à côté des
militaires. Mais est-ce que c'est leur travail de pouvoir aider les FRDC dans ce sens-là?
Mais bien sûr, vous avez parlé de
mandat. Est-ce que ce n'est pas la logique?
Sécuriser la population. Est-ce que vous avez l'impression que la population congolaise, surtout celle de l'Est, est sécurisée? Mais attendez, vous sécurisez la population pendant 15 ans et on en tue 6 millions, vous pensez que vous avez un bilan présenté à la communauté internationale? Moi, je pense que non. Il y a un problème, un sérieux problème
de résultats. Mais Innocent parle du contexte politique et il estime que le problème, c'est d'abord nous-mêmes, les Congolais. À ce stade-là, vous pensez que ce n'est pas nous, les Congolais, c'est toujours la communauté internationale à travers la Monusco?
Oui, mais la Monusco est venue appuyer. la FRDC, voici 15 ans. Mais le résultat, il est conjoint, c'est-à-dire qu'il y a une part des responsabilités du côté de la RDC et il y a une autre de la part de la MONUSCO. Si aujourd'hui on a un résultat négatif parce que nos frères sont tués à Beni tous les jours, même si on a renforcé le mandat, et vous pensez qu'après une année, après deux ans, la RDC demande que 6 000 partent, ils refusent et ils pensent qu'il faut deux.
Alors une petite question, quelles sont selon vous les avancées de la MONUSCO depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui ou peut-être même par rapport seulement à la précédente mission qui lui a été assigné?
Je pense qu'il y a quand même des œuvres que la MONUSCO, je ne parle pas de la MONUSCO, la mission des Nations Unies a faite, par exemple, voilà, en nous implantant la radio CAPI, qui a joué un très grand rôle dans le développement de la société. Mais la MONUSCO, vous avez vu à Bukavu, vous avez vu, demandez à l'Est, est-ce qu'on va vous dire que la MONUSCO a servi pour sécuriser la population? Je crois qu'il y a un problème. Si la MONUSCO veut rester, mais qu'on voit les résultats. Sinon, c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre qui serait...
C'est ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec Robert qui dit que ce qu'elle n'a pas fait en 15 ans, elle ne peut pas le réaliser en une année.
Non du tout. La MONUSCO ne peut pas faire de miracles si elle a montré ses failles, elle a montré ses incapacités. Donc, autant diminuer cette mission qui est, à mon avis, très budgétivore.
Oui, Innocent, très très rapidement alors.
Oui, je pensais que mon confrère allait sortir le mensonge auquel il a fait allusion, mais je ne l'ai pas entendu.
Ok.
Au contraire, il dit effectivement que le problème, c'est qu'il y a la co-gestion entre le gouvernement et la MONUSCO en ce qui concerne la sécurisation de la population en République démocratique du Congo. C'est là que je dis, le problème n'est pas que le gouvernement... Et il ne faut pas me faire dire qu'ici, le problème se poserait en termes de demander au président Kabila de partir. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est plutôt un pays qui doit survivre, une nation qui est là, qui vit normalement, alors, indépendamment de qui gère ce pays-là. Oui. Mais le problème, c'est que, est-ce que nous pouvons être dans les standards d'une vie normale dans un pays où les gens vivraient en sécurité? La co-gestion. Maintenant, s'il faut faire un bilan entre le gouvernement et la MONUSCO, chacun ayant une part de responsabilité dans la mission principale, ça c'est autre chose. Mais le plus important, c'est que la MONUSCO est arrivée ici en appui. Alors, au gouvernement, okay. Et donc le gros du travail c'est le gouvernement, ça n'a rien à voir avec la MONUSCO.
On va finir avec cette question.
Il ne faut pas se tromper d'adresse.
On va finir avec cette question du gouvernement qui s'est dit satisfait de l'accompagnement de la MONUSCO du point de vue sécuritaire et qu'il est à même de relever les défis sécuritaires qu'il y a à travers le pays. Est-ce que vous êtes d'avis du gouvernement? Je commence par vous, Robert Ndaye.
Oui, je suis. Merci beaucoup, Véry, parce que vous m'avez donné quand même la parole en retard, parce que j'en avais vraiment besoin avant. Je suis quand même choqué. Choqué de voir que lorsque un gouvernement légitime, un gouvernement en place légitime, pose le problème en termes de collaboration, en termes de coopération, et propose même, ne demande même pas que la MONUSCO parte, qu'on retire les troupes, on demande 6 000. La MONUSCO estime qu'il faut laisser, qu'il faut retirer 2 000 et garder un effectif maximum autorisé de 19 815 militaires, 760 observateurs militaires. Rentrons dans l'est de la RDC. J'aime bien quand les gens parlent à Kinshasa et qu'ils sentent, parce que nos frères de l'est sentent lorsqu'il y a des groupes armés qui terrorisent. La MONUSCO était là lorsque la ville de Goma était tombée. La MONUSCO est là lorsque les ADF Nalu ont massacré plus de 800 personnes. La MONUSCO était là lorsque à Beni, à Fifi, à Tigogo, à partout ailleurs, il y a des tueries. Mais la MONUSCO intervient lorsqu'on lui dit, bon voilà, nous sommes tout à fait d'accord, nous apprécions à juste titre la collaboration. Aujourd'hui nous avons la radio Okapi qui nous permet de suivre des débats par-ci par-là, c'est parmi les bienfaits. On a parlé de la protection des civils, on a parlé de ceci, des violences, des violences faites à ceci. Qui n'a pas vu dans ces pays?
Maintenant, Robert, oui, Robert, la question maintenant, c'est est-ce que vous êtes d'avis avec le gouvernement qui pense être à même de relever les défis sécuritaires?
Je suis totalement d'avis. Preuve, c'est à une minute, la preuve.
Oui.
Il y a eu un mois et demi aujourd'hui depuis qu'on a lancé les opérations contre les FDLR. Est-ce qu'il y a eu des morts, comme on l'entendait? Est-ce qu'il y a eu des cas? N'est-ce pas une prouesse à saluer? La MONUSCO ne voit pas ça. La MONUSCO compte sur son budget budgétivore. La MONUSCO pense qu'il faut continuer à garder le Congo sous tutelle. Là, je ne suis pas d'accord. Il y a des crises aujourd'hui en Ukraine, il y a des crises en Ukraine, il y a des crises au Yémen, il y a des crises des avions qui tombent par-ci par-là. Là, le Conseil de sécurité ne voit pas. Le Conseil de sécurité voit seulement un seul FDLR qu'on va toucher à l'est. La MONUSCO voit seulement un seul cas de viol. Là, on va établir des lois. Mais lorsqu'un casque bleu viole, lorsqu'un casque bleu fait ceci, là, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse... que la position du gouvernement, malheureusement, le gouvernement, monsieur le ministre, dans le 19, l'a dit clairement,
okay.
Nous sommes en mesure de relever les défis.
Très
il
bien.
Faut qu'on relève les défis.
Voilà, alors, Innocent, je vous donne la parole en dernier. Gaston, avez-vous une réaction par rapport à ce que dit Robert?
Je crois que j'appuie totalement ce que Robert dit, que la mission, la MONUSCO,
rapidement,
devrait réduire ses effectifs, parce que 15 ans ont démontré ses insuffisances. Donc il n'est pas question de, quand on n'a pas, on a besoin d'aider bien des gens, il y a bien moyen de le faire, que seulement d'imposer les forces qui viennent ici, qui voient et qui font des photos quand les civils sont violés, sont tués et qui font des documentaires. Nous avons besoin d'être sécurisés et la RDC...
Vous êtes d'avis avec le gouvernement ou pas?
La FRDC est capable de faire mieux, il suffit d'une motivation.
Très bien, merci. Alors, Innocent, non, rapidement.
Mais il faut pas faire preuve de mauvaise foi.
Okay.
On ne doit pas se moquer des efforts. Hein, ou du courage exceptionnel de Patrice Emery Lumumba, ou du courage exceptionnel de Laurent Désiré Kabila, quant au refus de mettre un seul instant notre pays sous tutelle. Parce que c'est que Robert est en train de dire. Mais est-ce qu'il réalise qu'il est en train de dire effectivement que le travail devait être fait par la MONUSCO, et si ce travail-là doit être fait par la MONUSCO, ça veut dire que nous acceptons que nous devons être sous tutelle parce que nous sommes incapables. Mais non, la MONUSCO fait le travail en appui. C'est le gouvernement, du fait de sa souveraineté.
Okay.
Le gouvernement est souverain, c'est lui qui doit donner les orientations, c'est le gouvernement qui doit définir clairement ce qu'on doit faire, et la MONUSCO ne fera que appuyer le gouvernement.
Gaston, 15 secondes.
En 15 secondes, Innocent, vous pensez que les gouvernements sont souverains quand les gouvernements demandent qu'on réduise l'effectif des 6 000 et que la communauté internationale s'impose et vous dise nous allons garder ces effectifs?
Mais non,
vous pensez que
est-ce que la communauté internationale est-elle imposée? Moi, je ne pense pas.
Très bien.
Le problème, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai démontré. Nous faisons partie d'une communauté, d'une organisation. Donc, quelque part, nous devons avoir la possibilité d'accepter les avis de nos membres. Nous sommes dans un concert.
Merci, c'est les membres. Et je dois rappeler que la résolution a été adoptée à l'unanimité. Donc, on passe ainsi au deuxième sujet de la soirée, qui concerne justement la rencontre de l'AMP à Kingakati. Et la majorité présidentielle s'était réunie le dimanche dernier dans la ferme présidentielle. Une rencontre convoquée par l'autorité morale Joseph Kabila et placée sous la direction d'Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité. Et c'est une réunion qui a réuni les membres du bureau politique de cette plateforme, auxquels se sont joints les présidents des groupes parlementaires, des regroupements politiques ainsi que des personnalités indépendantes qui sont souvent conviées à ces genres de rencontres. Et selon nos sources, la convocation de cette rencontre a été la réponse à la lettre du G7, entendait le groupe des 7 partis politiques, à savoir l'ARC d'Olivier Kamitatou, le MSR de Pierre Lumbi, le PDC de José Ndundo, l'ACO de Patrice Bologna, l'UNAFEC de Gabriel Kyungwa Kumwanza, l'UNADEF de Charles Mwando Ntsimba et le MSDD de Christophe Tundula. Tous ces partis politiques sollicitaient toujours un débat interne au sein de la majorité présidentielle. N'est-ce pas, Innocent Linga?
Dans cette lettre du 5 mars dernier parvenue à Radio Kapi, le G7 fait remarquer à Joseph Kabila que 15 années d'exercice du pouvoir pendant lesquelles il a réunifié les pays, doté la nation d'une constitution, jeté les bases d'une démocratie véritable, engagé les réformes économiques majeures et mis fin à l'isolement diplomatique de la RDC, les groupes constatent aujourd'hui, hélas, un essoufflement qui s'est traduit par des faiblesses susceptibles d'annihiler les progrès réalisés. Le G7 fait remarquer aussi à Joseph Kabila que les rejets de la révision ou changement de la constitution, les violentes protestations de janvier dernier contre la loi électorale ont conduit à la rupture du contrat de confiance entre les pouvoirs et le peuple. Le G7 s'inquiète qu'avec la majorité présidentielle incapable de faire une nouvelle offre politique crédible qui lui permette de se réconcilier avec la majorité sociologique du pays, si les réformes politico-administratives que l'on s'apprête à mettre en œuvre, notamment l'installation précipitée des nouvelles provinces, l'organisation très controversée des élections locales et municipales, ne risquent pas d'aggraver la fracture nationale déjà observée et de planter les décors d'une crise politique grave et difficilement maîtrisable dans les jours à venir.
Merci Innocent Olinga. Alors Gaston Mouchid, comment vous avez analysé la rencontre dans la famille politique du chef de l'État?
Moi, je suis d'avis que cette rencontre, au lieu de mettre ensemble les points de vue qui étaient divergents au départ, a plutôt attisé le feu parce que des gens se sont séparés à queue de poisson. J'ai suivi les commentaires tout à l'heure de notre intervenant qui a dit que la fossée, elle était profonde. Il y a un certain nombre de responsables des partis politiques qui ont écrit au chef de l'État pour demander un dialogue. Les dialogues, c'est qu'il fallait discuter et trouver un compromis. Autant qu'on a des problèmes avec l'opposition qui n'arrive pas à trouver un seul candidat, autant on a des problèmes aussi à la majorité qui n'arrive pas à avoir un point de vue. Les débats, ça sert généralement à trouver une conclusion. Quand les gens peuvent débattre, peuvent discuter et finalement se séparer en queue de poisson, le problème reste intact.
Est-ce que c'est une réunion qui était finalement inopportune ?
Inopportune, non. C'est une réunion, à en juger par la lettre que le G7 a écrite au chef de l'État, il était impérieux que les gens d'une même famille se retrouvent autour d'une table et discutent sans froid aux yeux de l'avenir politique de leur famille. Mais quand, au lieu de trouver des solutions et de voir, d'avoir une vision commune, les gens sortent en queue de poisson, je suis d'avis que ça n'a pas résolu les problèmes. Il faille une autre réunion au cours de laquelle les violons doivent s'accorder. Parce que si ça ne s'accorde pas, c'est que cette majorité qui est aussi pilotée par l'opposition va avoir du mal dans le prochain jour.
Alors Robert Ndaye, je rappelle que vous êtes journaliste à la RTNC. Le G7 cherchait un débat interne autour sûrement du remplaçant du président de la République après son mandat et rien n'a filtré dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas un échec du G7?
Pas que ce soit un échec. Parce que, tout simplement, parce que dans une famille, il est tout à fait normal que les gens puissent s'asseoir autour d'une table, surtout et surtout que les enjeux électoraux sont pointent à l'horizon. Il est toujours important que les gens puissent s'asseoir, que les gens puissent discuter, que les gens puissent débattre, que les gens puissent analyser la situation du pays, que les gens puissent... Je ne suis pas seulement d'accord du fait que lorsque un groupe au sein d'une famille politique, il y a toujours ceux qui peuvent voir des choses, il y a un groupe des sages, il y a ceci. Je ne suis pas seulement du fait d'accord que lorsque il y a une convocation d'une telle réunion, qu'on puisse en faire tout un drame, qu'on puisse spéculer autour. Il était important, d'autant plus que nous nous approchons des échéances électorales, que l'autorité morale de la majorité présidentielle puisse répondre favorablement aux uns et aux autres. Les divergences existent dans une famille. Il y a des moments où...
Mais les questions de l'ordre n'ont pas été abordées.
Papa est en contradiction avec maman, maman est en contradiction avec les enfants, mais on finit toujours par s'asseoir, regarder qu'est-ce que les autres demandent, qu'est-ce que les autres ne demandent pas, et on avance.
Mais les questions de l'heure n'ont pas été touchées, pratiquement.
Ni vous, ni moi, personne n'était là. Donc je me réserve de ne pas dire ce qui n'a pas été dit.
Ok, merci. Alors, Innocent Kaboukala, la réunion convoquée par l'autorité morale de la majorité, Joseph Kabila, est-ce qu'elle a atteint son objectif?
Je ne sais pas si elle a atteint ses objectifs, d'autant plus que je ne suis pas au courant des vrais motifs pour pouvoir convoquer cette réunion. Mais on a entendu parler. En tant que journaliste, bon, ça nous a intéressé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-dedans? Mais le plus important, on note que dans tout groupe, de façon générale, il y a toujours ceux qui sont radicaux et ceux qui sont modérés. Et le modéré, je constate malheureusement pour eux, ils sont toujours malheureux, indexés par les radicaux du fait qu'ils ont deux oreilles pratiquement. Ils écoutent à la fois leur chef, mais également la population qui donne le mandat. Dans leur raison là, ils sont toujours pas bien perçus par les radicaux qui, généralement, c'est le pouvoir pour le pouvoir parce qu'il faut se maintenir. Parce qu'ils s'inquiètent toujours de l'après ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore avoir droit à la cité ici? C'est toutes ces questions-là qui font que ces gens réfléchissent pour la plupart des cas. Parce qu'ils se savent que la population qui donne ce mandat, c'est aussi identifier cette aile dure-là, comme on l'appelle. Mais le chef lui-même, il est appelé à se partager. Je pense que les questions, pour éviter peut-être de spéculer, mais je sais qu'autour des questions, c'est notamment des questions de l'heure. Demain, c'est déjà les élections. Et qu'est-ce qu'on fait de ces élections-là? Demain, c'est le découpage. Est-ce que le découpage, c'est une bonne chose? Demain, notre avenir politique, bon, s'il faut choisir un dauphin, est-ce que nous serons tous d'accord autour de ce dauphin-là.
Donc pour toutes ces questions,
c'est pratiquement un flou qui règne autour de... Pour toutes ces questions-là, il est difficile, au lieu de rester dans la spéculation, il faut plutôt se retrouver autour du chef. Et pour preuve, vous voyez que le président, dans un premier temps, parce que d'après Obey Minaku, lorsque j'ai suivi son interview juste après cette réunion-là, il a donné ce qu'on peut qualifier de calendrier, parce qu'après ce groupe-là, le chef de l'État sera en mesure de recevoir les députés de la majorité pour pouvoir discuter de cette question-là. Donc, pour l'instant, il me semble que le président de la République voudrait d'abord laisser toutes les sensibilités de son camp s'exprimer, et peut-être qu'il pourra prendre la parole en dernier, et c'est pour cela qu'il a juste introduit et qu'il s'est écarté.
D'accord. Rapidement, parce qu'on doit conclure l'émission, Gaston.
Oui, à mon avis, très humble avis, le chef de l'État ne devait pas introduire et sortir. Parce qu'il y a, comme l'a dit le commentateur, des faucons et des modérés. Le chef de l'État avait dit, je cite, qu'il manquait autour de lui 15 personnes, 15 bonnes personnes. Je me demande si aujourd'hui il a déjà trouvé ces 15 bonnes personnes, et il y a des gens autour de lui qui ne lui disent pas la vérité, qui ne lui disent pas ce que pense la population, qui pensent que tout est rose et tout peut se faire comme ils veulent. Mais s'il y a des contradictions, il y a des gens qui voient autrement, comme l'a dit Innocent, qu'il y a des gens qui sont proches de la population, qui lui disent, attention, là ça ne va pas marcher, écoutez, et ça, il y a eu des gens qui n'ont pas été d'accord avec les découpages et plutôt la révision constitutionnelle, la loi et tout le reste. Ils l'ont dit avant, y compris dans leur réunion à Kingakati, je me rappelle du MSR et des autres. Ils ont été vilipendés. Mais aujourd'hui, quand les gens sont morts sur la rue, il y a lieu de leur donner raison. Moi, je crois que le président doit écouter et les modérés et les faucons et tirer sa conclusion.
Merci beaucoup. Et par rapport à ça, nous allons conclure finalement notre émission à travers... vous allez conclure sur le sujet de votre choix ?
Sujet de notre choix.
D'accord. On commence par Innocent. Innocent, votre petite conclusion, parce qu'on est arrivé à la fin de notre émission.
Oui, ma conclusion, je reviens sur la question du mandat de la MONUSCO. Je pense que s'il y a un conseil que je peux donner pour les deux parties, parce que quoi qu'il arrive, c'est la République démocratique du Congo qui doit sortir gagnante à travers ce renouvellement de mandat. Dans le reportage, on nous a dit que la MONUSCO avait aussi la possibilité d'appuyer le gouvernement du point de vue de la logistique en vue des élections à venir. Et dans la notion du dialogue qui avait été lancé, je crois que c'est là que la MONUSCO devait encore jouer
un grand rôle. Merci beaucoup. Robert Ndaye, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec tous les co-débatteurs de tout à l'heure. Je tiens à relever d'abord que la MONUSCO était venue au Congo sur demande du gouvernement et qu'aujourd'hui le même gouvernement a compris que la situation s'est stabilisée dans notre pays. Le gouvernement demande que 6000 partent. La MONUSCO a malheureusement voté la résolution 22-11, mais je pense qu'il est temps que les deux parties puissent s'asseoir pour l'unique et l'intérêt supérieur du peuple congolais. Nous ne devons pas donner, la MONUSCO ne doit pas donner, ou la communauté internationale doit donner l'impression aux Congolais qu'il doit intervenir que lorsque les intérêts de la MONUSCO sont menacés.
Merci beaucoup Robert Ndaye et Gaston Mouchid. Un petit mot, on est pratiquement arrivé à la fin de notre émission.
Oui, je souhaite par rapport à la MONUSCO qu'ils cessent d'être observateurs et qu'ils évitent qu'on tue des gens dans ce pays. Mais par rapport aussi à Kingakati, je vais terminer en disant que le chef et la majorité doivent aussi accepter ceux qui donnent des points de vue différents. Au choc des idées, jaillit la lumière. Il ne faut pas vilipender ceux qui ne pensent pas comme d'autres.
Merci beaucoup. C'est sur cette très belle note que nous finissons la tribune de la presse de ce soir. Je dis merci à Alain Goy qui était à la prise de son, équipe rédactionnelle et coordination Kéline Couté, supervision Ben Kabamba et présentation Biri Franklin Louchaka. Retrouvez cette émission sur votre site www.radiocapi.net et excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix.